Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2,21 chicorois! Mon Dieu!
Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête!
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Auditeur, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Alors bon, Bonaparte a finalement préféré le bicorne au micro de podcasteur, mais il avait parfaitement résumé le sujet de cet épisode. Je m'appelle Romain Gouloumès, vous écoutez Sixième Science, et aujourd'hui on dîne à la table des pharaons.
Du haut de ces pyramides, 20 siècles vous contemplent.
Alors j'ai envie de dire mission accomplie pour les pyramides. Historiquement, ces caveaux de luxe devaient assurer la renaissance du suzerain. Rien ne prouve en l'état que les pharaons ont ressuscité et rejoint le dieu Ré, incarnation égyptienne du soleil, mais leurs corps, en revanche, ont droit à une seconde vie dans les galeries des musées. Au moment où nous enregistrons cet épisode, petits et grands touristes se bousculent à la Villette pour admirer la momie de Toutankhamon et les richesses de son tombeau. Monté sur le trône à 9 ans, le plus célèbre des pharaons est décédé 3 millénaires avant notre naissance. Ses sarcophages, sa pyramide, tout est encore là. À croire que les accessoires destinés à atteindre l'éternité sont eux-mêmes éternels. Je sais, c'est beau. Autant l'avouer, je n'ai aucun mérite. Le sujet du dernier hors-série de Science et Avenir est justement l'invention de l'éternité par les Égyptiens. Notre invité parlera passage de vie à trépas, momification de masse et construction de pyramides. Vincent Réa est le rédacteur en chef des hors-séries Science et Avenir. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Après un il, une elle. Elle, elle est plus scalpel que truelle. Notre deuxième Indiana Jones s'appelle en fait Anissa Boumediene et elle est journaliste santé à 20 minutes. Pour ne rien vous cacher sur les coulisses de l'émission, ça fait 2 semaines, et je dis bien 2 semaines, qu'elle tanne ses collègues de boulot avec l'expo Toutankhamon. Anissa, est-ce qu'on peut dire que l'Égypte antique, c'est ton dada ?
C'est exactement ça, Romain.
Très bien, bon, ben, au moins j'ai en face de moi 2 personnes qui savent de quoi elles parlent. On ne va pas tourner plus longtemps autour du tombeau, ouvrons les sarcophages et déballons les momies. Vincent, je me tourne vers toi avec cette première question qui est assez compliquée, je crois. C'est quoi l'immortalité pour les Égyptiens ?
Alors, pour les Égyptiens, l'immortalité, c'est une véritable obsession. Contrairement à d'autres, ils n'ont pas peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ce qui les terrorise, c'est qu'à la fin de la vie, tout s'arrête et qu'ils disparaissent dans le néant. Heureusement pour eux, dans la religion égyptienne, il y a une deuxième voie qui est certes difficile, mais qui mène à une forme de résurrection et qui, en accomplissant certains rites, permet d'accéder à l'au-delà.
Ok, alors est-ce que c'est la même chose que ce qu'on connaît de la vie après la mort, enfin si on en connaît quelque chose, des écrits monothéistes ?
Alors cette notion d'au-delà, effectivement, on peut la rapprocher de ce qu'on connaît dans les écrits monothéistes. Après, on connaît quand même assez peu de religions qui enseignent qu'après la vie et après la mort, il n'y a rien. Enfin, bon. Mais alors, chez les Égyptiens, il n'y a pas de paradis, pas d'enfer, pas de purgatoire. L'au-delà, c'est plutôt une forme de deuxième vie identique à la première. Ils sont très conservateurs et ils font tout pour que ça continue de la même manière.
Et alors, on a bien épluché avec Anissa votre dossier hors-série. Et la croyance dans la survie après la mort, c'est plus ou moins la base, vraiment le socle de la civilisation pharaonique. Et cette conclusion ne vient pas de nous, elle est de l'égyptologue Pascal Vernu que vous interviewez en début de dossier.
Absolument, et je tiens encore une fois à le remercier. Pascal Vernu, c'est un de nos plus éminents égyptologues et c'est le genre de personne qui, au fil de son récit, vous transporte ni plus ni moins sur place, comme si vous y étiez. Effectivement, c'est absolument fondamental, cette croyance en la survie. Il y a plusieurs survies. La survie principale, entre guillemets, est la survie solaire, c'est-à-dire qu'en fait, la nuit est associée à un voyage souterrain du soleil. Et le pharaon, le défunt, suit la barque solaire dans ce voyage nocturne et est censé ressortir, renaître au jour à l'aube. Alors pourquoi c'est si fondamental ? Parce que cette obsession pour la survie a été absolument féconde. C'est elle qui a donné naissance à tous les rites que l'on connaît. C'est elle qui a donné naissance aux pyramides qui sont les tombeaux des pharaons. On en reparlera plus tard. Tous ces objets funéraires, ce mobilier funéraire, ces mythes omniprésents, cette surenchère en fait que l'on trouve notamment dans les textes gravés sur les parois des pyramides, sur les sarcophages et aussi à l'intérieur des tombeaux.
Un philosophe a dit un jour, Le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas.
Alors, tu parles beaucoup des pharaons et des pyramides, mais est-ce que l'ensemble de la société égyptienne adhérait à ces cultes et en tout cas à ces croyances de la survie après la mort ?
Alors évidemment, on a peu de témoignages de l'Égyptien lambda. Ils étaient sans doute profondément croyants. Il y a sans doute eu des moments de ferveur collective, des processions, des choses comme ça. À côté de ça, les tombes n'ont pas attendu le 19e siècle pour être profanées. Donc je pense qu'à l'époque, il y avait déjà des Égyptiens qui n'étaient pas pétrifiés à l'idée de pénétrer sur des lieux sacrés et de rafler les trésors qui s'y trouvaient. Les Égyptiens, en fait, en gros, ils avaient, donc, comme on l'a dit, vraiment tellement peur d'une fin définitive qui se disait on ne sait jamais, donc on va faire des prières pour maximiser nos chances de survie, on va faire ceci, on va faire cela, on va se mettre une amulette. C'était une façon de se dire, bon ben voilà, on s'est peut-être pas très bien comporté, mais grâce à ces petits arrangements avec les morts, entre guillemets, bon ben on se donne une chance quand même d'aller dans l'au-delà, même si on n'a pas été tip-top de notre vivant.
Une petite façon d'expier en quelque sorte. Anissa, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, il y a quand même quelques petites traces de l'époque qui laissent à penser que les Égyptiens ont pu avoir quelques doutes sur cette seconde vie. C'est l'égyptologue Marc Gabold qui a écrit un bouquin bien nommé Toutankhamon, qui m'expliquait qu'il y a des textes égyptiens anciens qui ont été mis au jour et qui exprimaient des doutes sur les vertus de la momification pour renaître, et dans lesquels il est envisagé que la momie se retrouve tout simplement immobilisée dans la nécropole et qu'elle ne parvienne pas à rejoindre sa seconde vie par l'au-delà.
Vincent.
Oui, et ça me fait penser aussi aux chants de harpistes qui sont des textes du Nouvel Empire qu'on a retrouvés également et dans lesquels on a quasiment côte à côte des phrases du genre « pratique tous les rites possibles, tu revivras dans l'au-delà » et puis pas très loin, en fait, ceux qui sont partis dans l'au-delà ne sont jamais revenus pour nous en parler, donc profite plutôt des plaisirs de la vie, de l'instant présent et ça sera parfait comme ça.
Bon, bah, c'est parfait, tu me donnes une bonne jonction pour ma question suivante, c'est est-ce que, du coup, cette survie était partagée pour la plèbe, les aristos et les autres classes de la société égyptienne ?
Alors au départ, dans les temps les plus anciens, l'accès à la survie était vraiment l'apanage du pharaon. Et puis progressivement, ça s'est diffusé d'abord à son entourage, à l'élite, à l'aristocratie et finalement à tous ceux qui pouvaient se le permettre parce que il faut payer les offrandes, il faut payer les prêtres, il faut payer les peintres qui vont décorer les tombeaux, il faut se payer des objets qui vont accompagner le défunt dans la tombe. Et donc en gros, plus vous êtes riche, plus vous avez de chances d'accéder à la survie. Les plus pauvres, eux, en général, ils avaient une petite amulette représentant l'œil qu'on connaît bien aujourd'hui, l'œil porte-bonheur, ce qui, en gros, leur suffisait. Puis au final, tout le monde comparait devant Osiris pour le jugement. Mais au fil du temps, la momification, qui elle était au départ réservée à l'élite, va se diffuser dans toutes les couches de la société.
Et justement, comment ce rituel de momification a-t-il évolué ? Alors, on ne l'a pas dit pour l'instant, mais si je dis pas de bêtises, la civilisation égyptienne a duré une bagatelle de 3500 ans.
Hein. L'Égypte a régné sur le monde pendant plus de 2000 ans. Nous avons inventé l'astronomie, les mathématiques. Nos architectes ont construit des sanctuaires dont vos archéologues s'échinent encore à découvrir l'entrée. Monsieur Bonisseur de la Batte.
Absolument. Et effectivement, ça a évolué en 3500 ans. Pas beaucoup, parce que 3500 ans, c'est quand même énorme. Et il y a une certaine continuité dans la civilisation pharaonique. Mais en ce qui concerne la momification, c'est vrai qu'il y a eu des évolutions. D'abord, à quoi ça sert ? Finalement, pourquoi on momifiait les morts ? Simplement pour conserver le mieux possible le corps et à nouveau pour maximiser ses chances de survie. Si le corps est à peu près identique à ce qu'il était du vivant, du défunt, eh ben on a peut-être une chance qu'il continue à survivre dans l'au-delà. Au début, dans les temps les plus anciens, c'était très rudimentaire. On desséchait, on déshydratait le corps avec du natron. Et puis, bon voilà, ça n'allait pas beaucoup plus loin, quelques bandelettes. Et puis, on a raffiné les méthodes. Si vous voulez, je peux vous raconter.
On a envie de savoir.
C'est quand même assez
croustillant. On est là pour ça. Hein.
Je vais vous dire trois mots que vous allez adorer. Paraschiste, tariqueute, nécrotaphe. Ce sont les trois professionnels de la momification. Le premier, c'est celui qui prépare le corps. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, il enfonce un crochet dans la narine gauche pour extraire le cerveau du défunt. Une fois que le cerveau est que le, que le cerveau est extrait, par le même orifice, c'est-à-dire par la narine, on remplit la cavité crânienne de résine. Ensuite, on ouvre le corps sur le côté gauche de l'abdomen, on extrait les organes, foie, poumon, intestin, estomac, qu'on va momifier rapidement, qu'on va mettre dans des vases canopes, dans des petits réceptacles. Après ça, on nettoie l'intérieur de l'abdomen avec des aromates, des produits de la myrrhe, de la cannelle, etc. On va déshydrater le corps, une fois que tout ça est fait, on le déshydrate pendant plusieurs jours, etc. Et quand il ne reste plus que la peau sur les os, on lui passe de l'huile, des onguents, de la gomme arabique, etc. On l'emmaillote dans les bandelettes et ensuite on le met dans le cercueil. Ça, c'est, j'allais dire, les règles de l'art. Au premier millénaire, la momification va se démocratiser. On va commencer à utiliser des substances moins chères, des méthodes plus expéditives. Là encore, je peux vous raconter, c'est assez croustillant. Là, mais...
Vincent, t'en prie.
Alors, il y a un procédé pour éviter toutes ces étapes compliquées, délicates. Un procédé qu'on appelle l'injection anale, qui consiste à introduire vous aurez compris où, l'huile de cade, qui est un puissant détergent, qui va réduire les viscères en bouillie. On bouche l'orifice, on laisse agir, et puis quelques jours plus tard, on bouche, on appuie sur l'abdomen et les viscères s'en vont en bouillie. Ça fait gagner du temps, c'est beaucoup plus expéditif. Donc on a cette espèce de travail à la chaîne en fait, des embaumeurs qui se met en place au premier millénaire, des dizaines de dépouilles qui s'entassent dans les ateliers, tout ça dans une puanteur sans doute absolument apocalyptique. C'est un métier difficile, les embaumeurs travaillent à genoux, accroupis sur des tables basses, un petit peu comme ça inclinées pour que les fluides puissent s'écouler. Et puis ce qui devait arriver arrive, je pense que certaines fois ils avaient du mal à traiter, à répondre à la demande. Et donc, on a ressorti dernièrement des momies, on les a passées à la radio, et on trouve des nez cassés, des colonnes vertébrales brisées, des corps sans tête, deux pieds gauches, des endroits rembourrés, et même des fausses momies faites de terre, de bois et d'os. De toute façon, l'embaumeur prenait peu de risques, puisqu'on n'allait pas vérifier ce qu'il y avait sous les bandelettes.
Exactement. Anissa ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y avait plusieurs versions de momification. Ouais. Il y avait la version de luxe pour les pharaons et la version low cost qui a fini par se démocratiser. Un seul point commun peut-être, c'est que effectivement il fallait éviscérer le corps et retirer les organes. Celui qu'on laissait en place, en revanche, c'était le cœur qui était laissé dans la dépouille parce qu'il était considéré comme le siège de l'âme, de la sagesse et de l'intellect, et qu'il fallait le laisser intact et bien en place pour passer l'épreuve de la pesée des âmes.
C'est assez marrant comme ce rapport au corps, parce qu'on se dit il y a une forme de respect, parce que l'enveloppe corporelle doit rester en très bon état pour survivre et pour assurer la survie de l'âme, en quelque sorte. Mais en même temps, on inflige quand même quelques sévices assez costauds à cette même enveloppe.
Oui, je rebondis sur la pesée de l'âme. Peut-être qu'on peut en parler aussi. Parce qu'il y a un truc assez marrant, c'est que finalement, donc, on a Thoth, le dieu qui tient les plateaux de la balance. Dans un des plateaux, on met la plume de la justice. Dans le deuxième plateau, le cœur du défunt. Si les plateaux sont à l'équilibre, le défunt peut accéder au royaume d'Osiris, etc. Si, malheureusement pour lui, l'équilibre ne se fait pas, il est dévoré par une espèce de monstre hybride de lion, d'hippopotame et de crocodile. Et là, ça se passe effectivement beaucoup plus mal pour lui.
Ouais, c'est assez costaud.
C'est ce qui s'appelle partir le cœur léger, quand tout se passe bien.
C'est vrai. Ouais. Effectivement, il vaut mieux avoir confiance dans son passé et dans sa vie. Hein. J'ai une question un peu supplémentaire là-dessus, mais au final, qu'est-ce qui fait que dans le processus de modification, le corps, on le voit hein, par exemple sur le corps de Ramsès II, on voit encore les ongles, les mains, elles sont pas parfaitement préservées, mais on n'en est vraiment pas loin. Qu'est-ce qui fait que ça survit si bien au passage du temps ?
Je pense que c'est tout le travail des tariqueutes, donc le deuxième mot sympathique dont je vous parlais tout à l'heure, qui, avec des substances comme la gomme arabique, comme des bitumes, comme des huiles, traitent le corps. Et puis un corps desséché, à partir du moment où on a retiré toutes les matières putrécibles, toutes les viscères, le corps, il n'y a plus que la peau sur les os, et le corps est appelé à durer plus longtemps, sous un climat en plus égyptien qui est plutôt désertique, qui fait chaud... sec, il y a du vent. La momification est plus facile sous un climat comme celui-là que dans un environnement tropical humide.
Effectivement.
D'ailleurs, on a retrouvé des momies naturelles qui datent de plus de 4000 ans, avant même l'époque des pharaons. Et en fait, c'est le résultat de momifications naturelles. Là, il n'était pas encore question d'embaumeurs, de bandelettes pour entourer le corps. C'est juste qu'effectivement, avec le climat aride, les dépouilles qui étaient enterrées... Voilà, ça séchait, parce que la température extérieure en plein soleil pouvait atteindre peut-être une soixantaine de degrés. Donc en fait, le corps est entièrement vidé de toute son eau, donc il n'est plus du tout humide, il est complètement desséché et c'est ce qui permet sa conservation.
Bon, alors j'ai une belle momie de pharaon, j'en fais quoi maintenant ? Est-ce qu'elle irait pas dans une pyramide ? Et ce qui amène logiquement, alors vous voyez, hein, je suis bien le conducteur, à la question, mais à quoi servaient tout simplement les pyramides ?
Ce tombeau sera votre tombeau ! Ce tombeau sera votre tombeau. Ah, c'est bien trouvé ça. Oh, je suis fort.
C'est une visite gratuite, j'aurais dû me méfier.
Elle servait d'abord et avant tout à abriter la tombe du pharaon, effectivement, sa chambre funéraire. Les parois et les chambres à l'intérieur étaient tapissées de textes, de hiéroglyphes représentant des messages pour aider le défunt justement dans son voyage vers l'au-delà, des conseils, des choses comme ça. Comment combattre le serpent, comment chasser les intrus, comment renaître, etc. La pyramide, à côté de ça, elle sert aussi à matérialiser sa puissance, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose qu'on voit de loin dans un environnement désertique. On est dans une espèce de mégalomanie funéraire à l'époque de l'Ancien Empire quand même. Hein. Et puis, et d'ailleurs, on n'avait jamais fait aussi grand avant et je pense qu'on ne fera jamais plus non plus aussi grand après. Ça sert aussi, je pense, à graver du coup son souvenir dans les mémoires collectives. Je pense que qui se souviendrait aujourd'hui de Khéops, à part quelques égyptologues, si il n'avait pas laissé une pyramide dans les airs égyptiens.
Numéro bis. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde ?
Oui, exactement, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde.
Qu'est-ce qui fait que ces pyramides ne sont pas, alors, ouais, elles sont un peu abîmées aujourd'hui, mais ne sont pas érodées ou n'ont pas été détruites tout simplement par les affres du temps et les colonisations, ce genre de choses ?
Bah, je pense qu'elles ont résisté aux affres du temps parce qu'elles sont faites en pierre de taille. Et ça, c'était aussi un souhait des Égyptiens d'utiliser ce matériau justement pour les faire durer pour l'éternité.
On boucle la boucle. Et la question suivante, c'est peut-être celle qu'on entend le plus souvent sur les pyramides. Et on est d'accord, hein, on ne sait toujours pas comment elles ont été construites.
Alors, on est bien d'accord, il y a des hypothèses. Effectivement, lorsqu'on voit que des blocs de 2 tonnes sont parfaitement assemblés ou que, par exemple, au-dessus de la chambre funéraire, de la chambre du roi, dans la pyramide de Khéops, il y a une dalle de granit qui pèse 63 tonnes, on peut se poser des questions et on peut partir dans des délires absolument fumeux, ce que Pascal Vernus appelle d'ailleurs la pyramidologie. Ce que l'on sait, c'est que, par exemple, pour rester sur Khéops, le chantier a duré une vingtaine d'années. Il y avait à peu près 20 000 ouvriers qui travaillaient ensemble entre les carrières pour la taille de la pierre, le transport des blocs et puis la pose, et que les ouvriers n'étaient pas des esclaves. Contrairement à ce que peut véhiculer une imagerie un peu courante, où on voit les ouvriers courber en deux les coups de fouet, ils accomplissaient une forme de corvée, une forme de service, mais ils étaient en contrepartie nourris et logés. Alors après, on peut discuter des conditions de travail, évidemment. Mais en tout cas, voilà ce que nous ont confirmé les papyrus de la mer Rouge qui ont été découverts assez récemment. C'était un chantier très organisé, des projets très, très, très précis et qui ne pouvaient avoir lieu, a priori, que avec un pouvoir fort, une administration forte, parce que ça coûtait cher et ça mobilisait quand même beaucoup de ressources. Et d'ailleurs, on va voir qu'avec l'affaiblissement de la royauté, petit à petit, on va assister au déclin des pyramides.
Des pyramides, on va passer à une autre forme de tombeau ou de sépulture.
Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne.
Anissa, je crois que toi, tu avais ta propre théorie sur la question, c'est ça hein.
Ma théorie, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'elle est partagée. Alors, peut-être pas par la majorité, mais en tout cas par un nombre d'adeptes, de passionnés des pyramides qui ont imaginé effectivement tout un tas de théories plus ou moins fumeuses pour expliquer comment on avait pu réussir à cette époque, sans les outils modernes, à bâtir des édifices aussi monumentaux. Et c'est aussi ce qui participe au mystère des pyramides, c'est que tous les mystères n'ont pas été révélé sur les méthodes de construction, et puis que ça a effectivement résisté des millénaires. 3000 ans plus tard, elles sont encore là et dans un état plutôt bien conservé. Et c'est vrai que les pyramides, ça a quelque chose de complètement fascinant. Et il y en a qui se sont dit que pour arriver à bâtir des édifices aussi impressionnants, forcément, nos petits cerveaux humains n'en étaient pas capables. Et c'était forcément avec l'aide des aliens. Alors là, on bascule un petit peu dans la quatrième dimension et dans la science-fiction. C'est quelque chose, c'est une croyance qu'on va retrouver avec une autre pyramide. C'est la pyramide de Kukulkan à Chichen Itza au Mexique, qui elle est beaucoup plus récente, elle a à peu près 1000 ans. Mais c'est vrai que voilà, c'est une croyance qu'on va retrouver à différents points de l'histoire. Et pour les pyramides, en l'occurrence, que ce soit au Mexique et à plus forte raison en Égypte, où on se dit que forcément ce sont les aliens qui sont venus nous filer un petit coup de main.
Des aliens ou, en ce qui concerne l'Égypte, une civilisation très avancée, très mystérieuse, etc. Notamment les hommes de l'Atlantide, les Atlantes, puisqu'on sait très bien qu'ils avaient tout compris avant tout le monde. Et donc, de la même manière, un des scénarios improbables les plus tenaces serait celui d'une construction des pyramides par ces chers Atlantes.
Alors, on ferme la parenthèse.
Juste si je peux ajouter, pardon. Certains ont cru d'ailleurs que les parents de Toutankhamon étaient peut-être des aliens. Il y a des représentations d'Akhenaton. On lui trouve un visage pas très humain et on se dit que peut-être il est venu de très 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 loin. Et donc l'épouse d'Akhenaton, qui n'est pas la mère, mais qui est la belle-mère de Toutankhamon, Néfertiti, dont on parlera de l'immense beauté tout à l'heure, était représentée avec une immense coiffe et il y en a qui se sont dit que sa grande coiffe cachait très probablement un crâne ovale d'alien.
On a fait le boulot, hein. Je crois que maintenant vous savez d'où viennent les pyramides, ça y est, vous pouvez terminer cet épisode. Bon, on va continuer sur Toutankhamon, hein, parce qu'on a parlé de momies, on a parlé de pyramides, et on est obligé de parler de Toutankhamon, de l'expo monstre qui a lieu en ce moment à la Villette, où on voit justement cette momie qui a été placée dans un enchevêtrement de cercueils, un sarcophage, et surtout ces masques au visage d'or. Enfin, est-ce qu'on n'est pas justement là devant l'un des plus grands symboles de l'éternité de la civilisation pharaonique ?
Si, précisément, c'est presque devenu même une icône. Alors, dans le détail, effectivement, on a trois cercueils emboîtés façon gigogne, hein, trois cercueils emboîtés dont le premier est en or massif, un sarcophage en granit, le tout inséré dans quatre chapelles en bois successives et installé dans une chapelle funéraire. Le fameux masque pèse 11 kilos, hein, c'est de l'or massif avec de la pâte de verre et du lapis lazuli. On peut dire qu'ils ont mis le paquet, les Égyptiens. Dans sa tombe, il y avait près de 5000 objets, plus de 2 tonnes d'or, un trésor hallucinant, des chars, des armes, des jeux, un petit peu de tout. Et puis, si on ajoute à ce trésor la médiatisation de sa découverte à l'époque, en 22, hein, par Carter, on comprend qu'il soit devenu une superstar et que les gens, d'ailleurs, se pressent encore aujourd'hui pour voir ces merveilles à Paris. Ça occulte un peu le fait que, finalement, Toutankhamon, c'était qui ? C'était un petit roi, jeune, assez mal en point, à vrai dire, parce qu'il était né manifestement d'une relation incestueuse entre son père et sa tante. Donc, on pense qu'il avait un pied beau. D'ailleurs, on a retrouvé plus de 120 cannes dans son tombeau. Il avait peut-être un bec de lièvre, des hanches déformées. Il avait des maladies congénitales. Il a attrapé le palu. Enfin bref, et puis il est mort à 19 ans après un règne d'à peine 10 ans. Donc, ça casse un peu le personnage. Et puis si on ajoute à ça que le fameux masque n'était probablement pas pour lui, ne lui était probablement pas destiné, c'est ce que les égyptologues ont déduit en grattant le petit cartouche où était inscrit son nom. Ils ont trouvé qu'en fait en dessous il y avait un autre cartouche avec un autre nom, et puis sa tombe non plus était peut-être pas destinée. Elle est quand même très petite pour un pharaon, et donc en fait il est peut-être mort un peu trop vite. On n'avait pas encore préparé la sienne, on l'a mis là en attendant, on a fini les peintures vite fait. Ça aussi, les égyptologues on conclut que les peintures avaient été très rapidement... elles n'étaient pas sèches quand on a refermé les portes du tombeau. Mais c'est peut-être aussi ça, cette petite tombe discrète qui a permis de conserver ce trésor aussi longtemps. Cette petite tombe à l'écart des grands chantiers de fouilles et surtout à l'écart des pillards.
Et donc c'est ça, c'est ce qui fait qu'elle est unique, c'est qu'en gros, on l'a retrouvée quasi intacte.
Absolument.
Seul le premier homme à avoir pénétré à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon pourrait comprendre l'émotion d'Amélie. Tandis qu'elle découvre cette cachette au trésor qu'un petit garçon a pris soin d'enfouir il y a une quarantaine d'années.
Oui, parce qu'en plus, Toutankhamon, c'est vrai, vous le disiez, c'était un petit roi. Et à l'époque, il est tombé dans l'oubli assez rapidement après sa mort, surtout parce que ses successeurs s'y sont employés en effaçant un peu toutes les traces de son règne. Et effectivement, lui qui est tombé dans l'oubli aura finalement accédé à l'éternité 3000 ans plus tard, en devenant le plus célèbre de tous les pharaons, grâce à ce trésor exceptionnel de 5398 objets plus beaux les uns que les autres, qui font qu'il laisse un témoignage qui a gravé l'histoire à jamais.
Alors on va parler d'héritage, on va quitter le témoignage, on embraye sur une autre rubrique, si j'ai envie de dire, puisqu'on va plutôt parler de la France, ou en tout cas de notre civilisation actuelle, qui, en tout cas, a plutôt ingéré tout ce qui vient de la civilisation pharaonique. On a fait des films sur la momie, on fait des expos en ce moment. Napoléon a même ramené un obélisque en son temps, qui je crois est Place de la Concorde, si je ne dis pas de bêtises. Bref, entre la grandeur de l'histoire égyptienne, les réalisations pharaoniques et l'exotisme de sa culture, qui est quand même magnifique, qu'est-ce qui peut expliquer la fascination que continue d'exercer la civilisation pharaonique sur la nôtre, justement, plus de quelques millénaires plus tard?
D'abord, il y a quelque chose de très français dans cette fascination qu'on a pour l'Égypte antique. Je ne sais pas si tu te souviens de tes cours d'histoire de 6e, Romain, mais l'Égypte antique était au programme. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui nous a mis un peu dans un bain propice à cette fascination dès un âge très jeune. Moi, par exemple, j'ai eu ma période où je voulais être égyptologue / Indiana Jones au féminin.
Tu le réalises un petit peu aujourd'hui.
Ouais, voilà, je réalise un petit peu mon rêve aujourd'hui. Et du coup, tout ça a participé un peu à cet engouement. Et puis, il faut aussi rappeler que Cocorico, le père de l'égyptologie, est français. Il répondait au doux nom de Jean-François Champollion. Et c'est lui qui, à l'époque, a décodé, a déchiffré les premiers cartouches royaux. C'est lui qui a décrypté le cartouche de Ptolémée V sur la pierre de Rosette. C'est lui qui a déchiffré ensuite le cartouche des Cléopâtre. C'est grâce à lui qu'on est parvenu à lire les hiéroglyphes. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui a quand même marqué notre histoire à nous, en France, dans notre rapport à l'Égypte antique. Tu le disais, il y a aussi l'obélisque qui vient directement du temple de Louxor, que l'on peut contempler place de la Concorde à Paris. Et c'est vrai que tout ça, ça participe d'un terreau assez favorable à cette fascination pour l'Égypte. D'ailleurs, j'étais hier à l'expo consacrée à Toutankhamon et c'était vraiment dans le public, ça allait de 7 à 77 ans et il y avait aussi bien des gamins qui étaient fascinés, parfois effrayés par la malédiction du pharaon dont on parlera tout à l'heure, et puis des retraités qui se souvenaient avec émotion de leur cours consacré à l'égyptologie et qui étaient ravis de pouvoir venir admirer les trésors de Toutankhamon.
Hubert, la situation en Égypte inquiète en plus haut lieu.
Le président Coty ?
Oui, le président Coty.
Anissa, on continue à faire un pas de côté encore, hein, puisqu'on va revenir un petit peu sur la question de la survie, plutôt que la question de la vie après la mort, qui est quand même une approche assez particulière de la part des Égyptiens. Et quand on a bossé un petit peu sur ce conducteur, on y a vu un point commun avec la quête très 21e siècle de ceux qui se font cryogéniser en attendant que la science fasse suffisamment de progrès pour qu'on les ramène à la vie et que leur enveloppe corporelle fonctionne à nouveau comme en 40.
Alors c'est vrai qu'en 2019, on est plutôt branché momification. En revanche, quelque chose qui nous anime depuis le début de l'humanité, c'est la peur viscérale de la mort. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les tout premiers écrits de l'humanité, dans l'épopée de Gilgamesh, qui fait le récit d'un roi qui est parti en quête de l'immortalité. Spoiler, il réussit pas. Mais c'est quelque chose qu'on a gardé profondément ancré en nous. Et du coup, c'est vrai que peut-être qu'on peut s'imaginer que la momification à la sauce moderne, ce serait aujourd'hui la cryogénisation. En quoi ça consiste ? C'est essayer de repousser les limites de la mort. Alors, en pratique, on meurt quand même. Et puis, juste petit aparté, c'est pas légal en France. Donc, si jamais l'envie vous prend d'aller prendre un grand bain de froid, il faudra aller tenter votre chance soit aux États-Unis, soit en Russie. Et donc, la cryogénisation, ça consiste à placer le corps dans un bain d'azote à moins 196 degrés. Alors, pour qu'on se congèle pas comme un, un morceau de viande qu'on aurait du mal à décongeler et à ramener à la vie le jour où la science le permettra. On injecte dans les veines un liquide antigel qui remplace notre sang, parce que sinon des cristaux de glace se forment et là, grosso modo, on est foutu. Donc ça, c'est le processus scientifique, parce que grosso modo, il y a deux moyens de conserver un corps. On l'a dit, il y a la momification qui consiste à dessécher totalement le corps, et donc la cryogénisation qui consiste à le congeler, grosso modo, mais il faut quand même observer un processus spécifique pour ne pas abîmer la dépouille et permettre, encore une fois, le jour où la science le permettra, si elle le permet un jour, de ramener le corps à la vie. Aux États-Unis, il y a un peu plus de 160 personnes qui sont cryogénisées. En France, a priori, il n'y en a pas, parce que comme je le disais, ce n'est pas légal. Et c'est vrai que ça répond à cette quête d'éternité qui nous anime de manière assez perpétuelle. Et d'ailleurs, l'un de ceux qui se serait bien laissé tenter par la cryogénisation, c'est Salvador Dali. Alors lui, il n'a pas fait mystère de sa peur de la mort. On peut notamment l'observer dans son œuvre avec les montres.
Les horloges, effectivement.
Voilà, c'est ça. Et qui sont une représentation de sa peur de la mort. Et quand il a appris l'existence de ce procédé de cryogénisation, il s'est dit que ce serait une bonne chose pour lui de tenter de revenir à la vie plus tard. Mais le procédé n'était pas assez sophistiqué à l'époque et du coup, il ne s'est pas laissé tenter.
Et il n'a pas été embaumé non plus.
Non.
Okay. Vincent ?
Si je peux me permettre un conseil à tous ceux qui auraient envie de se faire cryogéniser, c'est de lire « Tous les hommes sont mortels » de Simone de Beauvoir, parce qu'une fois qu'on a lu ce bouquin, on se rend compte que l'immortalité, finalement, c'est un petit peu dur à supporter et que finalement, notre vie a du sens uniquement que parce que nous sommes mortels et qu'elle a un terme. Voilà, un petit conseil de lecture au passage.
Eh ben, en parlant de choses qui arrivent à leur terme, cet épisode de 6ème Science en fait partie. Alors pour lui assurer une seconde vie, on va dire en quelque sorte post-momification, il n'appartient qu'à vous d'en parler autour de vous et surtout de poursuivre l'expédition. Alors le plus simple pour ça, c'est de vous rendre chez votre libraire préféré. Vous devriez y trouver bien en évidence le dernier hors-série de Science et Avenir. Vincent, puisque tu en es le rédacteur en chef, est-ce que tu peux nous dire simplement ce qu'il y a au sommaire ?
Alors beaucoup de choses évidemment, et puis c'est un numéro qui a une résonance un peu particulière pour la rédaction parce que c'est le dernier à avoir été conçu par Aline Kiner, qui l'a dirigé pendant 10 ans et qui a eu la mauvaise idée de partir pour son dernier voyage en janvier dernier. Elle nous manque beaucoup, c'était une excellente journaliste, une écrivaine, une amie et une grande connaisseuse de l'Égypte ancienne, et ce numéro porte vraiment sa marque. Il est riche, il est curieux et vous trouverez dedans plein d'interviews d'égyptologues. Vous découvrirez l'époque de l'Égypte des premiers rois, les premières écritures, les premiers hiéroglyphes. Également ce que contenait le fameux Livre des Morts, qui n'est pas un livre, mais je n'en dis pas plus. Il y a aussi un article très intéressant sur les techniques et les couleurs utilisées par les peintres pour orner les parois des tombes. De très belles photos des fresques de la tombe de Néfertari, et puis bien sur Toutankhamon, en long, en large et en travers.
Merci Vincent. Évidemment, toutes nos pensées pour l'équipe de Science et Avenir. Et cet épisode lui est évidemment dédié. Alors, Anissa, toi, tu avais un défi aujourd'hui et tu t'en es admirablement tiré. Plus d'une momie se serait défilée devant, j'étais obligée de la faire. Pas toi. Bref, bravo et merci beaucoup. Alors, avant que les portes du tombeau ne se referment, j'ai une dernière confidence à vous faire. Si c'est l'éternité que vous visez, laissez tomber la cryogénisation. La solution vous attend peut-être sur la page iTunes de 6ème Science. Alors, vous me voyez arriver. La postérité tient parfois un commentaire élogieux, sauvegardé à jamais dans la mémoire des internets. Sur un mode plus confidentiel, vous pouvez aussi nous écrire à audio@20minutes.fr. À dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
2,21 gigawatts, mon Dieu !
Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
6ème Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.